Doamne, doamne, ești un bine.
Bonjour fidèles auditeurs, bienvenue à Votre Santé, Votre Avenir, le programme santé de VOA Afrique présenté par Nanit Talani. Cette nouvelle édition se penche sur l'impact du COVID-19 sur le suivi psychologique des patients atteints du cancer et leurs proches. Comment le suivi psychothérapique des patients et de leurs familles est-il organisé? De quelles aides les patients, les proches et les soignants bénéficient-ils? À quel degré ces aides ont-elles été affectées? Comment le COVID-19 a-t-il impacté les malades du cancer?
Le fait qu'il y ait des dépistages qui ont été retardés à cause de la pandémie. Il y a des traitements qui ont été retardés à cause de la pandémie. Et tout ça, c'est quand même très grave parce qu'on risque de voir dans quelques temps une explosion de cancers avancés à cause de ça.
Pour en discuter, nous recevons Catherine Adler-Tal, psychologue clinicienne, oncopsychologue et oncosexologue, présidente de l'association Étincelle Rebondir avec un cancer. Elle est basée à Paris en France. Vous suivrez en seconde partie de ce programme Carnet de santé avec Linor Moudou.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Maintenant, notre discussion avec Madame Adler-Tal, oncopsychologue et présidente de l'association Étincelle Rebondir avec un cancer. Bonjour Madame Adler-Tal.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être l'invitée de cette édition qui est consacrée aux difficultés dans le suivi psychologique des personnes souffrant du cancer pendant cette période de coronavirus. Vous êtes présidente de l'association Étincelle Rebondir avec un cancer. Que faites-vous exactement au sein de l'association?
Eh bien, écoutez, on a plein d'ateliers, donc on a de la danse adaptée, on va essayer de mettre en place des groupes de parole, je dis bien on va essayer. On a des ateliers d'écriture, on a de l'art-thérapie, on a de la réflexologie plantaire, on a de la sophrologie, on a de la musicothérapie, on a du yoga, on a du shiatsu, on a un peu plus de entre 25 et 30 ateliers différents. On a de l'hypnose, il y en a pas mal, mais vous pouvez aller sur notre site, hein, www.étincelleasso.fr, et là vous verrez tout ce qu'on peut offrir à nos patients. Il y a plein d'ateliers qui ont continué en vidéo.
Certaines activités ont-elles été interrompues à cause de la pandémie?
Oui, tout ce qui était sophrologie, psychologie, hypnose, danse, etc., yoga, tout ça, ça a pu se faire en vidéo.
Mais vous êtes aussi oncosexologue. En quoi consiste votre travail sur cet aspect-là?
L'oncosexologie, c'est en fait essayer d'apporter du soutien et des conseils aux personnes qui ont des problèmes sexuels qui sont dus à la maladie et à ses traitements. La sexualité est très impactée, enfin, est souvent très impactée pendant le cancer. Pour les femmes, c'est souvent une baisse de libido, assèchement vaginaux à cause des traitements, douleur à la pénétration, enfin vous voyez, qu'est-ce qu'il y a encore, l'image du corps qui est mise à mal. Et pour les hommes, ça va être tout ce qui est difficulté érectile, voire plus d'érection. C'est surtout évidemment pour les cancers de la prostate, vous voyez. Et on essaie de trouver des solutions ensemble, d'en discuter. Vous savez, moi je dis toujours, j'ai une boîte à outils et les patients, ils se servent de l'outil qui leur convient mieux dans l'ici et maintenant, vous voyez.
Qui dirige les patients vers l'association? Est-ce que vous allez à leur rencontre ou bien les gens les réfèrent à vous?
C'est un peu les deux. Nous, on fait pas mal de communication, de presse, de com, quoi. Mais on est aussi un petit peu connu maintenant, puisqu'on existe depuis 2004. Donc, souvent, c'est les hôpitaux, les oncologues, les infirmières de coordination qui nous connaissent dans les lieux de soins. Et souvent, les oncologues disent, je sais qu'il existe telle association. On met des flyers dans les lieux de soins, on met des affiches, voilà.
Et comment cette pandémie a-t-elle affecté d'abord votre travail?
D'abord, elle l'a affecté dans la mesure où je ne pouvais plus être en présentiel. Mais dans notre association, comme nous avions décidé de ne pas laisser tomber nos membres, nos adhérentes, évidemment, nous avons fait beaucoup d'ateliers, dont le mien, soit en vidéo, soit par WhatsApp, soit par téléphone. Donc en fait, j'étais toujours en lien avec mes patientes, ce qu'on appelle nos étincelles d'ailleurs, plus que mes patientes, puisque je suis présidente de l'association Étincelles, et en plus oncopsychologue et oncosexologue, et toutes les consultations, on les faisait en vidéo, en règle générale, ou je vous dis par WhatsApp, mais avec caméra. Comme ça, je pouvais voir les patientes. Alors bon, c'est pas l'idéal, c'est mieux d'être en face, évidemment, mais ça permettait quand même de garder un lien.
La pandémie a vraiment affecté la vie des malades, surtout quand vous devez encore lutter avec le cancer. Qu'avez-vous noté auprès des malades? Comment ont-ils réagi à cette pandémie de COVID-19?
Ça dépend, il y a plusieurs types de malades, je dirais. Ceux qui vivaient seuls et ceux qui vivaient en couple ou en famille, vous voyez. Alors en général, en couple ou en famille, à la limite, ça passait. Mais pour ceux qui vivaient seuls, c'était une catastrophe parce qu'elles ne pouvaient pas recevoir de visite, parce qu'elles se sentaient hyper isolées, parce qu'il n'y avait personne pour les aider quand elles étaient malades, quand elles ne se sentaient pas bien à cause des traitements. Moi, il y en a qui trouvaient toujours des gens pour leur faire les courses et les mettre devant le pas de leur porte, si vous voulez. Mais c'est absolument pas la même chose que quelqu'un qui vient toute la journée avec vous, qui vous aide, vous voyez. Donc, il y avait un sentiment d'abandon, d'isolement qui était assez prégnant. Mais je dirais qu'il y a quelque chose de plus important, et qui est même dramatique, c'est le fait qu'il y ait des dépistages qui ont été retardés à cause de la pandémie. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Il y a plein de personnes qui n'ont pas été se faire dépister, qui n'ont pas fait leur mammographie. Il y a des opérations qui ont été retardées. Il y a des traitements qui ont été retardés à cause de la pandémie, ou des femmes qui avaient peur, ou des hommes aussi d'ailleurs, d'aller à leur chimio parce qu'ils avaient peur de la pandémie. Et tout ça, c'est quand même très grave parce qu'on risque de voir dans quelques temps une explosion de cancers avancés à cause de ça.
De quelle aide ont bénéficié les patients, les proches pendant cette période de la pandémie, surtout les patients qui vivaient seuls?
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, en ce qui concerne notre association, on a tout de suite mis en place des vidéoconférences, des ateliers en vidéo. Donc, on faisait de la danse par vidéo. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire, parce que par exemple, je vous dis, le massage par vidéo, ce n'était pas évident. Mais en revanche, il y avait de l'automassage, vous voyez, c'est-à-dire que les personnes qui faisaient l'atelier massage apprenaient aux patientes à s'automasser. On ne les a pas abandonnés. On pouvait toujours faire les choses par vidéoconférence. Et ça a été extrêmement important. Et d'ailleurs, ça nous a aussi permis de continuer à faire aussi ça pour les femmes qui sont trop fatiguées pour se rendre à notre association. Ou alors celles qui habitent loin, dans des endroits où il n'y a rien, mais dans les campagnes, dans des villes, dans des petites villes où il n'y a pas de soins de support, une petite partie de notre activité continue à être en vidéo pour ces femmes-là. Donc on ne les a pas abandonnées. Bon, c'est encore une fois pas pareil que quand on est quand on est en présentiel et qu'on peut discuter avec les gens, etc. Mais finalement, on a fait en sorte qu'elles puissent continuer à bénéficier des soins de support.
Selon ce que vous avez constaté, la maladie de COVID-19 a-t-elle été plus grave chez les patients atteints du cancer?
Bah, écoutez, comme je vous dis, je ne sais pas si la maladie a été plus grave chez eux, mais en revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a des opérations, par exemple, qui ont été retardées, des chirurgies. Or, quand on sait qu'en cancérologie, le premier geste thérapeutique et de, entre guillemets, guérison, c'est quand même le geste chirurgical, et que des opérations ont été retardées à cause de la pandémie, on peut se poser la question, effectivement, de savoir si la maladie a peut-être évoluer plus que s'il n'y avait pas eu la pandémie, vous voyez.
On comprend bien, d'après ce que vous aviez dit, qu'à cause de la pandémie, il pourrait y avoir des cas qui vont s'aggraver ou des explosions des cas. Y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire pour un peu contourner ou contrer cette catastrophe qui s'annonce à l'horizon?
Il faut pousser quand même les personnes, même en période de pandémie, à aller se faire dépister. Ça, c'est vraiment la seule chose qu'on peut faire. Et celles qui sont en traitement, d'aller à leur traitement. Maintenant, les opérations retardées, malheureusement, on ne peut rien faire. C'est au niveau des médecins, là, ou des chirurgiens, des hôpitaux. Mais en revanche, il faut encourager, malgré la pandémie, bon, maintenant que ça va mieux, enfin, en tout cas en France, ça va mieux, mais encourager au dépistage, quoi qu'il arrive. Parce que il y a plein de femmes qui ont passé leur mammo et elles vont se retrouver avec un cancer avancé dans 2 ans, 3 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment grave. Donc je pense que quoi qu'il arrive, il faut pas laisser tomber, quoi. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que le dépistage, il faut toujours être vigilant et ne pas sacrifier sa santé parce qu'il y a une pandémie.
Notre auditeur à Kinshasa, Alphonse Mbouaki, veut savoir si les personnes atteintes du cancer constituent une population vulnérable vis-à-vis de la pandémie.
Ça dépend. Si elles sont en traitement, par exemple, et qu'elles sont en aplasie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'elles ont une baisse de défense immunitaire à cause de la chimiothérapie, des traitements, vous voyez, donc elles ont une baisse de globules blancs, etc., etc., oui, elles vont être plus à même d'attraper n'importe quoi, dont le Covid. Voilà, c'est une histoire de défense immunitaire, donc c'est pour ça que ces personnes-là, il faut qu'elles se protègent, effectivement, donc elles vont sortir le moins possible, ne pas aller dans des lieux publics, éviter de rencontrer trop de monde, mettre le masque, se laver les mains, enfin bref, on connaît toutes les recommandations. Voilà, dans ce sens-là, oui, elles sont plus fragiles. Après, si les défenses immunitaires ne sont pas atteintes, elles sont aussi fragiles que d'autres. Après, effectivement, avoir un Covid sur un cancer, c'est pas l'idéal, vous voyez. Surtout si, je sais pas, moi j'ai travaillé en clinique et il y avait des personnes qui avaient un cancer du poumon et qui par-dessus avaient un Covid et malheureusement ça peut mal se terminer.
Quelle est la procédure de la prise en charge psychologique des patients atteints de cancer?
Ils viennent me voir, ce rendez-vous, et puis, alors, au sein de l'association, bah, c'est gratuit, puisqu'on demande une adhésion de 20 euros par an, et à partir de là, tous les ateliers sont gratuits, dont le mien, et à partir de là, bah, écoutez, le meilleur moyen, c'est déjà de les écouter, d'entendre leurs angoisses, leurs tristesses, leurs peurs, leurs questionnements, et puis après, essayer un petit peu de voir en fonction de ce qu'ils disent, hein, c'est du cas par cas, c'est difficile de donner une généralité, c'est vraiment du cas par cas, de voir un peu comment on peut apaiser et contenir toute cette douleur, cette peur, ces angoisses, ces questionnements. Vous voyez, je pense que le meilleur moyen d'abord c'est de les écouter parce que très souvent il y a un sentiment de solitude quand on a ce type de maladie. Même si on est bien entouré, il y a toujours une part de soi qui se sent seule parce qu'il n'y a que soi-même qui pouvons ressentir ce qu'on ressent dans ces cas-là. Et donc d'avoir une écoute attentive et puis d'essayer d'accompagner le mieux possible tout le cheminement, vous voyez. Mais après, ça dépend de comment chaque personne le vit différemment, la maladie. Chaque personne la vit différemment, est entourée différemment, a un environnement différent. Donc c'est en fonction un peu de tout ça où on peut aider et trouver des solutions ensemble.
Nous sommes presque à la fin de notre entretien. Quel est votre conseil à l'égard de tous les malades du cancer en ce moment-ci?
Il ne faut pas qu'ils hésitent à se faire accompagner. Il ne faut pas qu'ils hésitent à demander de l'aide. Parce que souvent, pas souvent, mais il arrive quand même assez souvent, que les personnes ne veulent pas, nous disent qu'elles n'ont pas besoin. Or, je pense que toute personne atteinte d'une maladie comme le cancer, à un moment donné du parcours, que ce soit de l'annonce à la fin ou à l'après-maladie, qui est aussi une période qui peut être difficile, a besoin de pouvoir déposer un peu, comme on dit, ses valises quelque part, ses casseroles, hein, avec tout ce que ça peut engendrer comme angoisse, comme honte, comme culpabilité, comme questionnement, comme peur, etc., etc. C'est parfois pas toujours facile d'en parler avec ses proches. Et donc, c'est vraiment important, je pense, l'accompagnement et les soins de support, c'est quelque chose qui peut vraiment aider.
Et qu'avez-vous à dire à toutes ces personnes qui s'occupent de leurs proches malades du cancer?
Et quant aux proches, aux aidants, c'est pareil. Alors eux, il ne faut pas qu'ils hésitent non plus à pouvoir dire, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est difficile. Et s'ils n'osent pas le dire ou s'ils ne peuvent pas le dire à la personne malade, je pense que les oncopsychologues et les lieux comme ça, des associations qui offrent aussi des soins de support et des lieux d'écoute, je pense qu'ils ont toute leur place là-bas.
Merci beaucoup, Madame Adler Tal, d'avoir été notre invitée.
Je vous en prie.
Vous venez de suivre notre discussion avec Catherine Adler-Tal, psychologue clinicienne, oncopsychologue et oncosexologue et présidente de l'association Étincelle à Paris en France. Maintenant, c'est l'heure de Carnet de santé avec cette semaine, dans Carnet de santé, le harcèlement, on en parle. Comment identifier le harcèlement et que faire? Le psychologue ivoirien Nour Bakayoko nous en dit plus. Ensuite, faites-vous plus jeune ou plus âgé que votre âge? Nous aurons quelques conseils pour bien vieillir. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Votre enfant pourrait être une victime ou même l'agresseur et vous n'en avez aucune idée. Ou peut-être souffrez-vous d'intimidation ou de violence verbale de la part de votre patron. C'est du harcèlement. Le harcèlement est une violence répétée sur une longue période qui peut être verbale, physique ou psychologique. Il prend diverses formes, allant des injures et de la violence physique à la honte sur les réseaux sociaux. Selon un rapport de l'UNESCO, le harcèlement physique est le plus fréquent dans le monde, à l'exception de l'Amérique du Nord et de l'Europe, où le harcèlement psychologique est le plus courant. Et les enfants qui sont perçus comme différents sont plus susceptibles d'être victimes d'intimidation. Partons au Mozambique pour une rencontre avec une jeune femme albinos à Maputo qui a beaucoup souffert de harcèlement dans son enfance. Reportage de Sergio Nambi. Récit Jenny Kampumbu Villa.
Selon l'UNICEF, un enfant sur trois dans le monde, entre 13 et 15 ans, a été victime de harcèlement à l'école, ce qui peut entraîner des traumatismes à vie et avoir un effet significatif sur la santé mentale. Le harcèlement peut avoir un impact significatif sur la santé mentale, la qualité de vie et le comportement des victimes. Teresa, qui a préféré ne pas utiliser son vrai nom, ne s'est toujours pas remise des souvenirs traumatisants de l'intimidation qu'elle a subie pendant son enfance.
Certains des autres enfants ne voulaient même pas s'asseoir avec moi.
Et parfois, le professeur facilite même la discrimination.
Lorsque nous disions au professeur que je ne pouvais pas voir, afin qu'il puisse me mettre devant, il se plaignait toujours et disait qu'il n'était pas responsable de ma difficulté à voir. Il n'a jamais pris le temps de me dire de venir m'asseoir de l'autre côté. À partir de la sixième année, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui m'ont permis de me tenir debout à côté de leur bureau pour que je puisse regarder le tableau et écrire. Cela m'a rendu la vie beaucoup plus facile. Mais en deuxième, troisième, quatrième et cinquième année, j'ai beaucoup souffert.
L'école n'était pas le seul endroit où elle était victime d'intimidation.
Les gens me crachaient dessus en disant qu'un enfant comme ça n'aurait pas dû naître. Parfois, ils me touchaient, ce qui était un problème. Et parfois, ça pèse vraiment notre estime de soi. Parce que quand tu traverses un endroit et que quelqu'un commence à te bousculer, à te dire du mal de toi, c'est très dégradant.
Vivant dans une société avec de si graves préjugés, elle a constamment peur, confie-t-elle.
Je finis par avoir peur de sortir seule. Je ne sors pas du tout parfois, parce que j'ai tellement honte.
Bien qu'elle ne puisse pas oublier les tristes souvenirs d'enfance, Teresa a choisi de changer les choses et de rendre le monde meilleur, un monde où les différences ne sont pas source de préjugés. Elle est aujourd'hui militante de l'association de soutien aux albinos.
J'aide d'autres personnes albinos qui ont été victimes d'intimidation et qui en font encore l'expérience avec des familles qui ne peuvent même pas accepter de vivre avec des enfants albinos.
Les données de l'UNICEF montrent que l'Afrique subsaharienne est la région où la prévalence de l'intimidation est la plus élevée, avec un taux d'incidence de 48%. Le type de harcèlement le plus fréquent dans la région est l'agression physique, suivie du viol. Le troisième est psychologique.
Nour Bakayoko est psychologue, psychothérapeute et PDG de SiteHorror, la plateforme de consultation et de thérapie en ligne basée en Côte d'Ivoire. Il explique certaines causes du harcèlement et ce qui peut être fait.
Le harcèlement, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une forme de violence répétée, dans le but de nuire ou bien avilir une personne. C'est une forme de comportement mesquin qui détériore un peu ou bien qui perturbe un peu la sérénité mentale d'un individu. Donc, pour expliquer le harcèlement, là, il faut aller un peu plus loin au niveau même de l'éducation parentale qu'on donne déjà aux enfants. Pourquoi ? Parce que par rapport au type de parents qu'on a, si on a par exemple un parent abusif ou bien un parent autoritaire ou bien un parent permissif ou passif, vous allez voir que les conséquences de cette éducation-là sur l'enfant feront de telle sorte que lorsque l'enfant est dans le milieu social ou bien à l'école ou bien même lorsqu'il grandit, il va vouloir recopier le modèle vis-à-vis des autres. Maintenant, à côté de ça, il y a aussi le milieu social qui agit sur l'individu. Donc, on va voir que par rapport à un phénomène social, les individus vont commencer à se comporter de telle de sorte à pouvoir harceler les autres. Et quand on a des personnes en situation de handicap, voilà, handicap pas seulement physique, mais souvent handicap moteur. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la dyslexie. On a l'autisme, on a le TDAH. Donc, ces personnes-là aussi sont sujettes au harcèlement. En milieu scolaire et même au milieu du travail, il y a deux formes. On a quoi? La forme verticale et puis la forme horizontale. La forme verticale, c'est peut-être du patron ou bien des responsables scolaires ou bien même des parents vers la personne. Maintenant, la forme horizontale, c'est-à-dire que c'est entre employés, entre élèves, entre frères, quand c'est dans une famille. Donc du coup, le dominant va essayer d'imposer son autorité par des actes de harcèlement. Par exemple, il peut priver une personne de son travail ou bien peut lui donner plus de travail pour lui faire mal ou bien faire ce qu'on appelle la placardisation, c'est-à-dire lui donner un travail où la personne considère qu'elle est au garage et tout. Et puis, il y a les injures, il y a les brimades, il y a les sous-entendus, etc. Maintenant, à l'école, le harcèlement scolaire, en tout cas vu d'ici, en Afrique, c'est un peu différent comme en Occident, parce que c'est toujours un groupe qui harcèle, parce que il y a la notion aussi d'humilier. Maintenant, au niveau de la famille, c'est cette pression familiale-là, ou bien cette pression parentale qu'on met généralement sur l'enfant. Peut-être que tu dois forcément avoir une bonne note. Il y a d'abord chez les phobies scolaires, l'échec scolaire, l'abandon scolaire. Aussi, on a le développement de la délinquance. On a aussi des maladies telles que la dépression, telles que les troubles anxieux, telles que les troubles dissociatifs de la personnalité. Il y a tellement de problèmes. Et ces mêmes problèmes-là reviennent quand l'enfant devient grand, soit qu'elle est en milieu du travail. Non seulement c'est un facteur de perte des performances au travail, aussi ça peut agir au niveau des troubles de l'humeur. La personne aussi peut développer une dépression et toutes les pathologies qui accompagnent. Au niveau familial, à peu près les mêmes choses qui vont se répéter. La personne va développer ce qu'on appelle le sentiment d'abandon et le sentiment du rejet. Si c'est dans une école, la première chose à faire, c'est déjà contacter les autorités de l'école. Ne même pas chercher à dire non, si je fais, ils vont le renvoyer, etc. Quand c'est le travail, il faut avertir l'inspection du travail. Il faut vraiment avertir l'inspection du travail qui va servir les autorités judiciaires. Quand c'est au niveau familial, il faut utiliser les moyens de négociation. Peut-être faire venir un autre parent ou bien une grande personne pour essayer de venir parler aux parents pour comprendre. Mais que ce soit ces trois formes-là, il est nécessaire de voir déjà un spécialiste pour se faire suivre.
Passons maintenant au vieillissement. C'est un processus normal lorsque nous sommes vivants, au cours duquel le corps change naturellement. La plupart des gens aspirent à rester en bonne santé en vieillissant. Pour beaucoup, paraître plus jeune que leur âge biologique est tout aussi important. Nous avons demandé quelles mesures prenez-vous pour bien vieillir. Voici ce que certains d'entre vous ont répondu à Kigali, au Rwanda.
Les gens ne croient pas que j'ai 50 ans. J'aimerais en avoir 40 à cause du sport parce que je fais de l'exercice.
Beaucoup de gens ne croient pas que j'ai 55 ans et pas plus jeune. Je dis à ces gens que je reste jeune parce que je pratique du sport et que je bois beaucoup d'eau pour rester en bonne santé.
D'autres personnes n'acceptent pas que je sois même dans la trentaine. On dit que j'ai l'air d'avoir 20 ans. J'aime pratiquer du sport. Ça fait partie de ma vie de tous les jours.
Tout se résume à mon style de vie. Depuis l'enfance, je bois du lait et je mange ma nourriture locale.
Vous voulez voir une grande différence entre ceux qui ne font pas d'exercice et moi? Ils sont toujours malades et chaque fois qu'ils ont des problèmes musculaires ou des maux de tête, ils ont recours à différents médicaments. Mais ce n'est pas bon.
Le docteur Francis Palmer est chirurgien plasticien facial et auteur de What's Your Number? Il partage quelques conseils pour paraître plus jeune sans passer sous le bistouri.
Alpha-cétoglutarate, qui est le long nom du composé réel, mais c'est un élément clé pour vous pour que chaque cellule de votre corps produise de l'énergie. Mais au fur et à mesure que nous vieillissons, entre 40 et 80 ans, cela peut être réduit de 10 fois et non de 10% 10 fois. Ainsi, à 60 ans, vous pouvez avoir 10% de ce que vous aviez à 30 ans. Et je pense que c'est là que nous commençons à voir que l'alpha-cétoglutarate aide non seulement à fabriquer de l'énergie pour chaque cellule du corps, mais affecte également la façon dont votre ADN est exprimé. Et je pense que c'est là qu'on commence à voir combien de choses cela peut affecter à long terme, ou les ramifications, le point culminant de tous ces effets positifs serait une réduction de votre âge biologique. Vos gènes disent essentiellement à chaque cellule de votre corps ce qu'il faut faire, mais il existe un programme épigénétique qui se chevauche, qui dit si oui ou non ces gènes vont être exprimés ou non. Et ce sont les chemins de méthylation de l'ADN. Ainsi, la plupart des chercheurs pensent maintenant que c'est la meilleure façon pour nous de penser à notre âge biologique et de tester pour voir à quel point notre corps fonctionne, ce qui est plus important pour la santé. Quand vous considérez votre âge biologique, s'il augmente ou diminue, ce n'est pas la fin de l'histoire. Derrière cela se cachent toutes les différentes fonctions cellulaires et biologiques. Contrairement aux autres choses que vous pouvez prendre, il n'est pas disponible dans la nourriture. Ce doit être un supplément. Et je pense que le problème ici est vraiment que tous les suppléments ne sont pas créés de la même manière. Ainsi, peu importe la quantité que vous prenez, ce qui est important, c'est la quantité absorbée par le corps. Peu importe combien de temps vous vivez, ce que vous voulez faire, c'est vivre dans un état de santé optimal. Donc la durée de vie est belle, mais être en bonne santé est meilleur.
Même si vous ne pouvez pas vous empêcher de vieillir, eh bien, les experts disent qu'il est possible de ralentir le processus de vieillissement en prenant certaines mesures. Il s'agit notamment de boire de l'alcool avec modération, de dormir suffisamment, de réduire les graisses saturantes et bien sûr de faire de l'exercice physique.
Voici à la fin de ce programme Santé. Cette édition de Votre Santé, Votre Avenir était axée autour des difficultés du suivi psychologique des malades atteints du cancer pendant la pandémie de COVID-19. Notre invitée Catherine Adler-Tal a notamment mentionné des stratégies mises en place pour contourner les difficultés causées par la pandémie. Madame Adler-Tal est psychologue clinicienne, oncopsychologue, oncosexologue et présidente de l'association Étincelle Rebondir avec un cancer à Paris, en France. Puis, dans la seconde partie, vous avez suivi Carnet de santé avec Lilian Moudou. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Devant ce micro, Nanit Salani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.